Partir en mission a signifié pendant des siècles la volonté de convertir à tout va et de baptiser le plus grand nombre en exportant sa religion et en l'imposant, avec les meilleures intentions du monde, à des populations qui ne la connaissaient pas. Une autre approche, celle de Pierre Clavery, pionnier du dialogue interreligieux, se fait jour aujourd'hui. Elle consiste non pas à vouloir convaincre en infusant à autrui ses propres certitudes, mais d'être avant toute chose en phase avec le désir de Dieu qui entend le cri de toutes ses créatures et qui aime chacune d'entre elles. Créer ainsi du lien, gagner peu à peu l'amitié de l'autre, le comprendre, permet de discerner ce que Dieu veut pour cet autre. Nous ne sommes pas les gérants de l'annonce, écrit un frère dominicain. Le programme de la mission s'écrit en dialogue avec le monde auquel nous sommes envoyés. Apprendre à se connaître permet de surmonter les préjugés. Sans l'attention à la parole de l'autre, on se priverait de sa richesse, de sa vérité, des éléments positifs qu'il peut nous apporter. En construisant avec lui une coexistence dans la diversité, nous cheminons ensemble et devenons capables d'affronter des défis communs, comme celui du refus de la violence et l'exigence du respect absolu des personnes. Pierre Clavery aime parler d'une mise en présence de l'autre pour le laisser émerger, le reconnaître et s'ajuster à lui. Il ne s'agit pas ici de tolérance, mais plutôt de regard. Nous appartenons tous à Dieu. Aussi, devons-nous regarder l'autre comme lui nous regarde, comme lui le regarde. Sa volonté est de sauver tous les hommes dans leurs différences, et non pas seulement ceux qui sont les héritiers de sa parole. Il n'y a qu'une conversion, dit Mgr Clavery, celle qui nous tourne dans une recherche authentique et sincère vers Dieu et vers nos frères en humanité, non pour les conquérir ou les dominer, mais pour nous libérer ou nous réconcilier. À mesure que la violence monte en Algérie, Mgr Clavery milite pour sauvegarder ce précieux dialogue si nécessaire entre communautés. Il écrit « Nous voulons seulement aider à rendre possible une cohabitation dans la différence, cohabitation qui se fonde sur une volonté obstinée de vivre ensemble. » À partir de 1994, il réagit fermement en apprenant les assassinats des premiers religieux. Quelle abominable lâcheté chez ces tueurs de l'ombre. Que l'on me prenne pour cible, je le comprendrai. Évêque, je représente peut-être aux yeux de certains une institution honnie ou dangereuse. Lorsque les terroristes abattent Odette Prévost, un coup de colère lui échappe. Bravo, les héroïques combattants de la justice ont encore frappé. Et de tourner en dérision les lâches capables de commettre de tels crimes. Face à la menace, il s'insurge haut et fort avec un grand courage, car à chaque intervention, il risque sa vie. En même temps, il invite à un approfondissement spirituel et à une prière toujours plus intense. Dès lors, Pierre Clavery sait bien qu'il ne s'agit plus seulement de dialoguer et de débattre, mais aussi d'offrir sa vie en communion avec tous les Algériens, hommes et femmes, victimes eux aussi. L'égorgement des 7 moines trappistes de Tibirine le fait profondément réagir. Pour nous, ils étaient une lumière car ils réalisaient radicalement ce que chacun essaie de vivre dans les tracas et les soucis de la vie quotidienne. Leur mort scelle un pacte nouveau entre nous, une alliance d'amitié que rien, même la mort, ne pourra briser. Quant à nous, nous allons poursuivre leur chemin. La lumière qui s'est allumée ne s'éteindra jamais. Et quand il se pose la question radicale de la mort et du sens de la vie, il regarde la croix. En offrant sa vie à Dieu par fidélité à un peuple musulman qui se trouve dans une situation dramatique, il atteint le sommet de la rencontre islamo-chrétienne. Il constate ainsi que dans cette terrible épreuve, le dialogue progresse sur tous les plans. Les 11 victimes religieuses ont scellé de leur sang une nouvelle alliance entre le pays, et des milliers de témoignages reçus le manifestent, dit-il. Dès 1990, il affirmait déjà que ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous sépare. Un an avant sa mort, Mgr Clavery adresse une lettre au Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. En voici les termes. Le dialogue de l'espérance religieuse est encore plus fort. Car devant la souffrance et la mort, l'appel à Dieu ne connaît ni langue, ni religion, ni frontières. Nous nous retrouvons ensemble, devant Dieu, dans la pauvreté et la supplication, et nous prions les uns pour les autres. Dans ce désert, la présence de Dieu s'impose à nous tous comme l'unique recours, et chacun abandonne sa suffisance. Cette expérience de dénuement nourrit nos plus profonds échanges et notre plus solide expérience. Si Pierre Clavry est resté en Algérie au mépris du danger, ce n'est pas seulement par doctrine, pour la défense de ses idées, notamment celles qui concernent le dialogue interreligieux, mais bien pour des personnes concrètes, avec lesquelles il est en relation, avec un nom, un visage, une famille. Après le décès de Pierre, nombreux sont les amis algériens qui se sont manifestés. Des intellectuels, mais aussi des gens très simples. Musulmans pratiquants ou algériens laïcs, parfois en rébellion. Tous se sont référés à ce point commun. La recherche de la relation avec l'autre, le désir d'échanger idées et points de vue. Intellectuel, il était surtout pour tous une voix, une conscience, un ami. Son lien d'amitié avec son chauffeur illustre cette attitude. Il a confié au père René Yu, curé de Sidi Bel Abbès, « tu vois, rien que pour un homme comme Mohamed, cela vaut la peine de rester dans ce pays, même au risque de sa vie. » Son chauffeur était l'aîné d'une famille nombreuse qui avait été accueillie à des heures difficiles au presbytère de la ville. Mohamed continuait d'y rendre des services. Notamment, il aimait conduire la voiture paroissiale pour les curés et les religieuses. Il était gentil, souriant, l'ami de tous, et Pierre Clavry le connaissait depuis longtemps. Cet été 1996, Taïeb, l'employé habituel de l'évêché, était en congé. Mohamed accepta de venir passer l'été à Oran en dépannage. Le 1er août, il est donc allé chercher son évêque à l'aéroport. Et voici qu'au seuil de l'évêché, les attendait la bombe qui les tua tous les deux. René Yu témoigne de la profondeur des liens créés entre eux. Ceux qui les ont fréquentés l'un et l'autre, dans les derniers mois, surtout dans les derniers jours, ne peuvent s'empêcher de penser qu'ils vivaient ensemble une agonie, un combat silencieux. Sa solidarité envers son évêque, le jeune Algérien l'a affirmé. Qu'est-ce qu'un ami qui se tait quand son ami va mal ? On sait peu de choses de Mohamed, mort si jeune, à 21 ans. Sinon qu'il écrivait des notes dans un petit carnet où il avait consigné en dernière page une prière d'adieu. Cette amitié a donné lieu à l'écriture d'une pièce de théâtre, Pierre et Mohamed, par le frère dominicain Adrien Candiar. Ce spectacle, joué à plusieurs reprises, a enthousiasmé ses spectateurs. L'amitié de Mohamed et de Pierre illustre combien, devenu évêque, Pierre Clavry se voulait évêque pour tous. Non seulement berger de son troupeau de chrétiens, mais pasteur de ceux qui se trouvaient en dehors de l'enceinte de l'Église. Il avait ressenti l'appel à l'épiscopat comme un chemin de conversion, évitant l'écueil de devenir un fonctionnaire du sacré ou d'un culte sans âme. Son chemin de sainteté n'était autre que l'amour pour le peuple qu'il se devait de protéger, même au prix de sa vie. Face à la violence, au moment les plus difficiles de la guerre civile, il l'a dénoncé, conscient du risque pris, mais incapable de se taire. Aucune idéologie, aucun projet politique ne peuvent justifier les morts quotidiennes, dit-il. Sa chaire épiscopale était devenue un tremplin pour dire la vérité. Il concevait l'Église dans le monde non pour le conquérir ou se sauver elle-même, mais pour être avec Jésus, lié à l'humanité souffrante. Lorsqu'il réunit les anciens copains scouts de son enfance, en juin 96, il déclare « Où serait l'Église de Jésus-Christ, elle-même corps du Christ, si elle n'était pas là d'abord ? Je crois qu'elle meurt de n'être pas assez proche de la croix de son Seigneur. » Si paradoxal que cela puisse paraître, et saint Paul le montre bien, la force, la vitalité, l'espérance chrétienne, la fécondité de l'Église viennent de là. Pas d'ailleurs, ni autrement. Elle se trompe, l'Église, et elle trompe le monde, lorsqu'elle se situe comme une puissance parmi d'autres, comme une organisation humanitaire, ou comme un mouvement évangélique à grand spectacle. Elle peut briller. Elle ne brûle pas du feu de l'amour de Dieu, fort comme la mort, comme dit le Cantique des Cantiques. Car il s'agit bien d'amour ici, d'amour d'abord et d'amour seul. Une passion dont Jésus nous a donné le goût et a tracé le chemin. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ce goût du Christ et de l'Évangile, les 19 bienheureux martyrs l'avaient en commun et le déployaient à travers leurs missions respectives en terre d'Algérie. Au service d'un peuple, ils cherchaient en toute humilité à vivre les béatitudes. Au moment de l'indépendance, ils avaient assisté au reflux des pieds noirs catholiques vers la France. Mais ils avaient choisi de rester pour partager leur amour inconditionnel de l'Algérie avec les musulmans, dont ils respectaient la foi et qu'ils aidaient de leur mieux matériellement en les enseignant et en les soignant aussi. La découverte de l'autre était pour eux source d'enrichissement. Leurs histoires personnelles s'inscrivaient dans leur appartenance à l'Église d'Algérie et à un peuple, et cette communion les comblait. Près de 30 ans après les assassinats des 19 martyrs, où en est l'Église d'Algérie? Elle compte près de 8000 catholiques, la population étant musulmane à 97%. L'Église comprend la province ecclésiastique d'Alger, avec une cinquantaine de prêtres et 75 religieuses. Elle inclut les diocèses d'Alger, d'Oran et de Constantine, auxquels s'ajoute le diocèse du Sahara, rattaché au Saint-Siège. Depuis 2006, une loi de contrôle des cultes met l'Église catholique dans la ligne de mire du gouvernement. Elle intervient dans un contexte de tension et de crainte du prosélytisme chrétien en Algérie, notamment protestant, ce qui conduit à des amalgames entre l'activité des associations évangéliques et celle de l'Église catholique. En 2022, les autorités algériennes ont fermé la branche algérienne de Caritas, sans motif apparent. Ce service diocésain, ouvert en 1962, permettait d'apporter une aide d'urgence aux personnes âgées ou en situation de handicap ainsi qu'aux enfants. À Tizi Ouzou, où le souvenir des Pères Blancs assassinés reste très vif car ils étaient très aimés par la population, s'est installée une communauté de jeunes Pères Blancs de pays et d'origines divers. Pour eux, résolument tournés vers l'avenir, la marche continue. Ils ont constitué un pôle d'aide aux étudiants étrangers et une aumônerie. Ils ont créé une bibliothèque tournée vers le milieu de vie algérien que les pères avaient juste eu le temps d'ébaucher. Pour les chrétiens algériens dont le nombre croît, et pour les étudiants, ils animent une vie paroissiale féconde. Après l'assassinat des 7 trappistes à Tibirine, 2 des survivants, aidés de quelques moines, ont essayé pendant quelque temps de refaire vivre la communauté. Mais ces efforts furent vains, compte tenu de la situation du pays. En 2001, les cisterciens ont donc confié le monastère au diocèse d'Alger. Celui-ci envoya un prêtre, le père Jean-Marie Lassos, pour maintenir en vie ce lieu de vénération et de pèlerinage. Pendant 15 ans, il s'est dévoué pour entretenir cet endroit, notamment le jardin où sont enterrés les 7 moines. Depuis 2016, le monastère est confié à la communauté catholique du Chemin Neuf, composée de laïcs, de 2 prêtres et d'une sœur consacrée. Un atelier y a été créé, lieu de rencontre pour les jeunes filles du village qui effectuent des travaux d'artisanat. La communauté se charge de l'exploitation agricole en lien avec les villageois. À vocation œcuménique et pratiquant le dialogue interreligieux, elle accueille les chrétiens de tout pays et les nombreux visiteurs venus en pèlerinage. La cause de béatification des 19 martyrs d'Algérie a été introduite par Mgr Henri Tessier, grand ami de Mgr Pierre Clavry, qui lui avait succédé au centre diocésain des Glycines à Alger, puis à l'évêché d'Oran. Pour Mgr Tessier, ces martyrs, figures de sainteté en actes, étaient le reflet de la vie de l'Église. Il partageait en tout point les idées de Pierre Clavry sur le sens de la mission en Algérie. Lui aussi avait accepté de rester au péril de sa vie. Décédé à Lyon le 1er décembre 2020 à l'âge de 91 ans, Il a donc été l'artisan de la béatification de tous ces martyrs, célébrés le 8 décembre 2018 en la basilique Santa Cruz sur les hauteurs d'Oran. Une cérémonie très émouvante a rassemblé de nombreux imams en visite auprès de l'église, quelques heures après avoir reçu les familles des martyrs à la grande mosquée. L'un des temps forts de la messe a été l'échange du signe de paix, lorsque les évêques sont descendus dans l'assemblée pour saluer les représentants musulmans. Des you-you et des applaudissements vibrants ont été entendus. Ces béatifications sont une lumière pour le présent et pour l'avenir, ont déclaré les évêques d'Algérie. Elles disent que la haine n'est pas la juste réponse à la haine, qu'il n'y a pas de spirale inéluctable de la violence. Elles veulent être un pas vers le pardon et vers la paix pour tous les humains, à partir de l'Algérie, mais au-delà des frontières de l'Algérie. En ces temps où la violence et la haine se déchaînent sur notre planète, prions les martyrs d'Algérie, qu'ils donnent aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui leur esprit d'amour pour les pousser sans se lasser à la rencontre de l'autre, afin de le connaître, de le comprendre et de l'aimer. Prions. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci d'avoir suivi ce podcast sur la vie du bienheureux Pierre Clavry. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines histoires de saints.